franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Pour cette dernière semaine de la saison, nous conservons le principe d'un carnet dédié à une thématique ressortant des actions et initiatives en provenance des territoires, quelle que soit leur taille. Aujourd'hui, nous nous inquiétons de la culture et de sa relation à l'économie sociale et solidaire, en sachant que bon nombre de structures culturelles sont constituées en associations. Ce numéro nous permet de nous inquiéter également des retours moraux sur les initiatives culturelles qui perdent de leur vitalité par réduction des moyens. On a eu quelques mauvaises nouvelles, je suis désolé. Normalement, on est facteur de bonnes nouvelles, mais aussi des mauvaises nouvelles du côté de la culture. Donc, réduction de moyens, imprécision des objectifs aussi liés à la longue période électorale que nous avons vécue, et puis à la réforme administrative des régions. En bref, qui décide aujourd'hui des politiques culturelles dans les territoires, et quel est l'avenir de ceux, celles qui représentent la culture et les arts dans ces mêmes lieux? Récemment, le Labo de l'ESS réunissait plusieurs responsables culturels observateurs avisés pour évaluer les mesures à prendre pour l'avenir de ce qui relève bien d'une économie de la culture au bénéfice des publics et des territoires locaux. Parmi les intervenants, Bernard Latarget, qui est à nos côtés aujourd'hui.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Bernard Latarget, bonjour.
Bonjour.
Bernard, un rendez-vous organisé avec le labo de l'ESS autour de l'économie sociale et solidaire et de la culture. Un bref rappel, je vais faire un résumé, excusez-moi. Mais l'ingénieur agronome qui passe à la culture, l'agriculture à la culture, il y a peut-être un pont. D'ailleurs, il y a souvent des correspondances, on en voit de plus en plus.
Il y a quatre lettres de différence.
Oui. Vous avez été délégué général de la Cinémathèque française, vous avez été à la tête de la Fondation de France, conseiller de la culture pour la culture. Et la recherche scientifique au secrétaire général de l'Élysée, président aujourd'hui du Théâtre Montfort à Paris. Je regarde les chiffres, les entreprises culturelles aujourd'hui sont à 20% d'entre elles comprises dans l'économie sociale et solidaire, c'est juste?
Oui, c'est juste, c'est l'ordre de grandeur qu'on se donne, mais il ne faut pas trop s'appuyer sur les chiffres parce que au fond, l'énorme majorité de l'offre culturelle assurée par des entreprises aujourd'hui qui peuvent se réclamer de l'économie sociale et solidaire, c'est des associations et qui n'ont pas donc le statut des entreprises qu'on considère dans les statistiques comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire. Je préfère qu'on dise que, en gros, 40% de l'ensemble des entreprises art et culture, qu'elle soit complètement commerciale, qu'elle soit complètement financée par le service public ou qu'elle soit associative avec des financements mixtes, que 40% de l'ensemble de ces entreprises relèvent de l'économie sociale et solidaire.
Alors, il y a trois questions. D'abord, il y a les créateurs et les acteurs de la culture. Il y a les publics. Et puis, il y a les leviers pour que les deux puissent se rencontrer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la culture est en péril? Je vous donne, quand même alimenter cette réflexion, Culture au Centre, qui était une agence de développement qui a fait énormément de choses sur la région Centre, a fermé ses portes faute de subventions. Avec, en Limousin, agence de développement culturel, vient d'apprendre sa fin d'existence au 1er janvier 2018, ça sera fini. La culture est-elle en péril alors?
Alors la culture n'est pas en péril. Bon, il y a en effet une remise en question aujourd'hui du modèle économique des différentes entreprises culturelles. C'est vrai qu'il y a moins d'argent public. C'est vrai que les entreprises culturelles commerciales, ce qu'on appelle les industries culturelles, sont soumises aujourd'hui, de la part du marché de la mondialisation, à des contraintes, des risques de concentration de plus en plus grands.
C'est un vilain mot, industrie culturelle.
C'est un vilain mot, monsieur. Voilà. Bon, c'est l'expression consacrée. Donc, le modèle économique des entreprises aujourd'hui qui font l'offre artistique et culturel dans ce pays est en cause, est en question. Il n'est pas bouleversé, il n'est pas menacé, il doit s'adapter. Il doit s'adapter à une légère réduction des financements publics et donc il doit s'efforcer à la fois de trouver des recettes complémentaires, sans remettre en cause ses vocations et ses ambitions justement fondamentales. Et puis, il doit développer un effort de coopération, de rassemblement, de rapprochement, de mutualisation. Se mettre ensemble pour faire plus et mieux avec un peu moins d'argent.
Ouais, mais c'est le cas des agences, citées avec en Limousin. Plus de 200 structures contributrices à cette agence avec en Limousin, ça ferme pourtant.
Alors, il y a de plus en plus aujourd'hui de regroupements d'artistes qui se regroupent pas seulement pour mettre en commun des moyens techniques, des locaux, des moyens de communication, des moyens de production, des moyens financiers, mais qui se regroupent pour créer des coopératives de projets. Parce qu'ils pensent aussi que en étant plus ensemble, en étant plus nombreux, ils augmenteront leur potentiel de création. Donc, la coopération est vraiment l'impératif aujourd'hui. Coopérative d'artistes, coopérative d'entreprise, quel que soit le statut culturel.
Alors, on en revient quand même à des références d'économie sociale et solidaire. Quand on parle de coopérative, il y a l'exemple des coopératives d'activité d'emploi culturel, Clara, à Paris, par exemple, de pôle de territorial de développement économique.
De coopération économique,
la Coursive Boutarique à Dijon, et il y en a bien d'autres.
Oui, j'ai rencontré il y a quelques jours les responsables de Fontaine aux Livres, qui est un pôle territorial de coopération économique sur l'édition et la lecture à Paris. Mais encore une fois, au-delà de ces formes juridiques originales, il y a le fait que voilà, des artistes se regroupent, des entreprises se regroupent pour mettre en place aujourd'hui des logiques de création, de production, de diffusion. Nouvelle. Vous savez, la tradition, c'est l'individualisme dans le monde de l'art et de la culture. La solitude de l'artiste, le chacun pour soi. Bon, c'est cette logique qui change, et c'est pour ça que on est certain à parler de transition culturelle. C'est une vraie transition. Transition de l'individualisme vers la coopération.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Bernard Latarget, invité des carnets, pour évoquer la situation de la culture et de l'apport de l'économie sociale et solidaire à l'épanouissement des acteurs culturels, de l'ancrage territorial de ces acteurs, de la coopération, comme l'a dit Bernard il y a un instant. Un rendez-vous donc préparé avec le labo de l'ESS. D'ailleurs, vous aviez tenu, Bernard, il y a quelques mois, une tribune auprès du labo en parlant de la raréfaction des financements par subvention de l'État ou des collectivités locales, la hausse des coûts de fonctionnement qui conduit à brève échéance le modèle du service public à la asphyxie. Ça veut dire que pour les entreprises culturelles, le seul ressort sera le mécénat d'entreprise ?
Non. Pour les entreprises culturelles, il y a deux ressorts. Celui dont on vient de parler, c'est-à-dire se rassembler pour faire face à ces difficultés financières. Être plus nombreux pour être plus économes tout en étant autant, sinon plus créatifs. Mais il y a une deuxième voie, c'est augmenter le public, augmenter les recettes de fréquentation. On est le pays d'Europe qui crée le plus d'œuvres par an dans toutes les disciplines. On est le pays d'Europe qui propose au public le plus grand nombre de représentations, des expositions, des concerts, des livres, des projections de cinéma.
50 000 titres ou 55 000 titres par an dans le monde littéraire.
Et les films, plus de 20 films par semaine. Mmh. Et bien sûr, le spectacle vivant. Mais on est aussi le pays dans lequel le nombre de représentations de ces œuvres nouvelles par œuvre est le plus faible. Bon, on crée beaucoup, ce qui est très bien. On a beaucoup d'artistes, ce qui est très bien. On a beaucoup de représentations, ce qui est très bien. Mais on n'a pas beaucoup de représentations par œuvre parce qu'on n'a pas assez de public. L'offre, la création augmente beaucoup plus vite que le public. Mmh. Et c'est pour ça que ça coince. Bon, donc il faut faire un effort supplémentaire. L'effort, il est fait. Hein. Ils se donnent du mal, les directeurs de musées aujourd'hui, pour élargir leur fréquentation, les directeurs de bibliothèques et de médiathèques, les directeurs de théâtre. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Il faut aller chercher plus loin.
Ça veut dire qu'il faut commencer très tôt. Ça commence à l'école.
Ça commence à l'école, d'où cette priorité déjà ancienne, mais pas vraiment traduite dans les faits, donnée à l'éducation artistique et culturelle. On espère que la nouvelle ministre de la Culture, qui a affiché dès son arrivée cette priorité, cette préoccupation, y parviendra. Vous avez raison, ça commence à l'école.
Il existe de nombreux organismes. Il y en a un qui a été créé quand même en 1960 à l'initiative d'un groupe de maires de toutes tendances. C'est la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Elle existe toujours, la FNCC.
Oui.
Elle concerne les élus à la culture. Elle avance notamment le respect du pourcent du budget culturel de l'État, la création de services culturels dans les collectivités, la légitimité des délégations à la culture au sein des conseils municipaux, intercommunaux, généraux, régionaux, et elle fait même de la formation, parce que souvent les élus, ben, s'il y a des élus de bonne volonté, ils disent « mais je ne sais pas comment faire ». Là, elle procède à la formation. Ça ne porte pas plus que ça ?
La FNCC a été parmi les premiers organismes, et c'est intéressant que ce soit un organisme d'élus, à prêcher ce qu'on appelle dans notre jargon le passage de la démocratisation de la culture à la démocratie culturelle. La démocratisation, c'était le rêve de Malraux. C'est-à-dire, bon, on amène les gens devant les tableaux et le miracle se produit. C'est tout le monde a libre accès à l'excellence artistique et donc ce miracle de la mise en contact direct de l'œuvre et du plus large public se produit. Bon, malheureusement, ça ne marche pas aussi bien qu'on puisse espérer. Vous parliez d'éducation. Bon. Donc, il y a des limites à la démocratisation culturelle. Il faut continuer, bien sûr, à développer les conditions d'accès aux établissements. Mais le passage à la démocratie, c'est... Voilà, l'art et la culture ne sont pas simplement des objets de consommation réservés à un public formé pour les consommer. Les publics, les citoyens, doivent pouvoir devenir acteurs de leur propre culture. Pratiquer, être dans une chorale, dans une troupe de théâtre amateur... Et puis, avoir un contact personnel et plus direct à la création. Je m'explique. Quand j'étais à la Fondation de France, on a lancé avec François Est un programme disant qui s'appelait « Les nouveaux commanditaires ». Il consistait à dire « Tous les citoyens qui le souhaitent et qui peuvent se regrouper pour cela peuvent faire commande d'une œuvre d'art à un artiste de leur choix pour répondre à une préoccupation qui est la leur. » Bon. Eh bien, ce passage de la démocratisation à la démocratie, il vient d'être consacré par ce qu'on appelle la déclaration de Fribourg. C'est une déclaration universelle, c'est une déclaration des Nations Unies, qui dit « Chaque homme ou femme doit pouvoir choisir la culture qu'il souhaite, qu'il veut, doit pouvoir avoir accès à la culture de son choix. »
Donc c'est un droit fondamental.
C'est un droit fondamental. Et donc, les établissements culturels, les organismes qui ont en charge la production et la diffusion de la culture doivent pouvoir s'adresser à tous et permettre à tous donc ce choix qui aujourd'hui est réservé à quelques-uns. Bon, c'est évidemment un idéal, c'est évidemment un rêve. Mais la FNCC a eu ce mérite. Elle a dit, voilà, la démocratisation, c'est très bien, mais c'est limité, il faut passer à la démocratie. Chacun doit pouvoir avoir accès à la culture de son choix.
Merci Bernard Latarger.
Merci.
Toutes les informations et les liens utiles et utilisés pendant cet entretien, vous les retrouverez à nos pages d'émission. Alors vous allez trouver sur nos pages d'émission justement, franceinter.fr et notre page Facebook, de nombreux liens, dont celui de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, dont nous avons parlé, qui regroupe près de 450 communes, communautés de communes, conseils départementaux et régionaux, je vais le dire complètement, fncc.fr pour l'adresse. Et mais pendant longtemps, le repérage des budgets culturels des collectivités territoriales ne soulevait pas vraiment de questions ou d'inquiétudes majeures. Ça, c'était avant, comme le dit toujours la pub, à l'époque de la décentralisation plein essor, puis d'une phase d'engagement des collectivités locales en faveur de l'action culturelle. Les années 2000 vont changer la donne. Et vont décider le ministère à réaliser des enquêtes annuelles sur les dépenses culturelles des collectivités. Celles-ci sont menées par l'Observatoire des politiques culturelles, dont la dernière synthèse, publiée en janvier de cette année, fait état d'une réduction moyenne, ça ne va étonner personne, de 5% des budgets alloués par les départements entre 2015 et 2016, et 4% par les régions. Le domaine le plus affecté est celui des arts plastiques et visuels, tandis que les moyens accordés à l'éducation artistique et culturelle sont stabilisés dans la majorité des régions. Et à l'échelle des départements, les bibliothèques, les archives et le patrimoine voient leur budget mieux préservé que ceux des festivals et de l'événementiel officiels ainsi que ceux consacrés au spectacle vivant. Ça me laisse dubitatif, parce que ça veut dire que on conserve la mémoire, le patrimoine, ce que certains appellent d'ailleurs un patriotisme culturel. Ça me fait un peu froid dans le dos, comme dirait le film. Alors qu'il y a en face un spectacle et des arts vivants qui attendent d'être aidés. Observatoire-culture.net pour l'adresse. Et puis nous avons parlé des agences culturelles territoriales. Elles ont organisé leur première rencontre nationale en octobre dernier en Alsace, au nombre de 90. Certaines agences redoutent un avenir incertain, s'interrogent sur les orientations que les métropoles nées de la réforme territoriale vont prendre en matière d'investissement culturel. Il y a un lien aussi avec ces agences. Et puis à titre pratique, la ville de Montreuil accueille les journées du management culturel, journées professionnelles, enfin accueillera, ce sera les 21 et 22 septembre prochains. Il y a déjà des inscriptions et un site pour faire cela. Voilà, fin de citation. On retourne dans la Meurthe-et-Moselle, Nicolas Stoufflet à Liverdun pour le jeu des 1000 euros.